suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Spontanément, lorsqu'on pense à la démocratie participative, dont les pratiques tendent à se multiplier, à se diversifier, on s'imagine une extension à d'autres arènes, des modes d'échange rationnels traditionnellement valorisés dans les procédures classiques de la démocratie représentative. C'est doublement se tromper. D'une part, la démocratie représentative, n'en déplaise aux conceptions normatives sur lesquelles elle repose, n'a jamais pu se débarrasser complètement des émotions pour faire triompher la raison. Et d'autre part, loin d'être marginale, ces émotions occupent souvent une place centrale et même institutionnalisée dans les nouvelles pratiques participatives. C'est ce dont on va se rendre compte aujourd'hui en parlant d'un ouvrage collectif dirigé par Loïc Blondiot et Christophe Traini, « La démocratie des émotions ». L'un des co-directeurs de l'ouvrage, Loïc Blondiot, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, est l'invité aujourd'hui de la suite dans les idées, une suite dans les idées dont la deuxième partie prolongera cette réflexion sur les démocraties participatives ou les pratiques participatives de la démocratie avec Mathieu Larnaudy qui est l'éditeur du Livre des Places, un collectif d'écrivains et d'intellectuels autour de ce mouvement des places tel qu'on l'a pu le qualifier qui s'est fait jour dans différents pays à travers le monde depuis maintenant une bonne dizaine voire une quinzaine d'années, s'est intensifié à certains moments. Ça, ce sera pour la deuxième partie avec Mathieu Larnaudy, par ailleurs auteur d'un livre sur la promotion Macron à l'ENA qui s'intéresse aussi à la question d'une certaine façon des émotions et de la raison en politique. Alors on y revient à ces émotions, Loïc Blondiot, ces émotions qui ont longtemps eu mauvaise presse dans les conceptions de la politique, et notamment les conceptions philosophiques, normatives de la politique, puisque au fond ce qui s'est agi de mettre en place, c'est un espace public rationnel dans lequel des citoyens échangeaient des arguments et dans lequel on organisait des débats, des élections, tout un tas de choses qui reposaient sur la raison. Et on n'a pas voulu voir ce qui relevait trop des émotions, tout en sachant évidemment que ça jouait un rôle central. Alors peu à peu, les sciences humaines et sociales, dans leur variété, dans leur diversité, que ce soit l'anthropologie, l'histoire, la science politique, la sociologie, se sont intéressés aux émotions. Voyons bien que le modèle de l'électeur rationnel, par exemple, pour ne prendre que ce cas-là, ça fonctionnait pas très bien. Et donc, on essayait de comprendre la place des émotions. Mais ils lui ont donné une toute petite place dans ces formes traditionnelles de la démocratie. Et ce que vous faites là avec ce livre, c'est de voir ce qu'il en est de nouvelles pratiques sur lesquelles vous avez vous-même travaillé depuis longtemps, qu'on appelle participatives. Alors d'abord, peut-être de quoi s'agit-il et pourquoi les émotions n'ont pas été considérées dans un premier temps s'agissant de ces pratiques participatives ?
Oui, on trouve une similitude entre la disqualification des émotions dans un certain nombre de théories, d'idéologies, de visions classiques de la démocratie. Alors, sans remonter à Platon, hein, l'opposition émotion-raison, c'est une opposition assez cardinale. Donc, dans le discours politique, il y a une certaine dévalorisation des émotions, et dans la recherche aussi. Ça n'est que depuis, disons, une vingtaine d'années qu'on a commencé à réhabiliter ces émotions, à penser qu'on pouvait par exemple expliquer les mobilisations autant par les émotions que par des stratégies rationnelles ou par des rapports de force. Et avec Christophe Traini, nous sommes demandé quel était le statut finalement des émotions dans ces démarches nouvelles qui se multiplient aujourd'hui à travers le monde d'associations des citoyens au processus de décision. Alors d'associations plus ou moins formelles, d'associations plus ou moins réelles, et nous nous sommes rendus compte que les émotions y jouaient un rôle, mais un rôle multiple. En fait, il y a des émotions qui sont prescrites par ces démarches, par ces dispositifs. On attend du citoyen...
Qui sont recherchées.
On attend du citoyen qu'il exprime certaines émotions, voire même qu'il ressente certaines émotions. Par exemple, dans le colloque issu de ce livre, une communication qui n'a pas été retenue dans le livre portait sur la manière dont la Commission européenne avait mis en place des dispositifs dispositif de consultation des citoyens qui avait comme agenda de leur faire aimer l'Europe, c'est-à-dire de stimuler chez eux des émotions positives à l'égard de l'Europe. Et ça n'a pas du tout marché. C'est-à-dire qu'effectivement, quelquefois, ces émotions qui sont attendues ne sont pas au rendez-vous. Et puis, il y a des émotions qui sont proscrites aussi. C'est-à-dire qu'il y a des émotions qui, effectivement, ne s'ajustent pas. Voilà. Ne s'ajustent pas au dispositif. Et effectivement, il y a une constante dans les démarches de démocratie participative qui est de valoriser plutôt l'échange rationnel, l'échange d'arguments, la discussion que l'émotion. Mais certaines échappent à cette règle.
Alors, peut-être pour y voir plus clair, il faut distinguer deux plans, au fond, Loïc Blondiot. D'un côté, le fait de devoir, lorsqu'on est un sociologue de la politique, prendre en compte les émotions, le rôle qu'elles jouent pour comprendre un certain nombre de phénomènes, de faits sociaux auxquels on est confronté. Et d'autre part, le fait d'attribuer une valeur positive aux émotions. Il me semble que progressivement, on a pu glisser de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'on a eu des modèles explicatifs de sociologie qui nous ont dit on ne peut pas prendre les modèles, par exemple, de la théorie économique qui repose sur l'acteur rationnel pour expliquer pourquoi les gens votent comme ça ou pourquoi les gens se mobilisent ou pas, descendent dans la rue, etc. Il faut aussi prendre en compte des affects, par exemple, des passions, des émotions. Le vocabulaire est riche. Mais d'un autre côté, on a vu peut-être un glissement s'opérer avec ces nouveaux objets apparaître et finalement une passion pour ces objets, au fond, de la part des chercheurs.
Oui, alors bon, effectivement, il y a deux manières de raisonner, deux manières de traiter cette question des émotions. Il y a la manière qui domine un peu dans ce livre, sur la démocratie des émotions, qui consiste à dire on va essayer de les observer. On va essayer de les saisir au plus près de leur expression, de leur émergence dans les démarches participatives. Et c'est pas une mince affaire. Parce que on sait très bien qu'entre les émotions exprimées et les émotions ressenties, il y a de la marge, il y a des formes de codification des émotions qui ne sont pas facilement saisissable par l'observation. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de multiplier les études de cas et des études à caractère ethnographique qui visaient à essayer de restituer ce processus de fabrication et d'émergence des émotions au plus près de leur contexte. Donc là, on est dans l'ordre du descriptif. Et puis, il y a les raisonnements de théorie politique. Et c'est vrai, vous avez raison, que ceux qui travaillent, les chercheurs qui, comme moi, travaillons sur les démarches de démocratie participative, sur ces nouvelles formes de démocratie, partagent souvent un certain nombre d'a priori normatifs. Et effectivement, réfléchissent à la manière dont le travail sur les émotions peut renforcer les capacités d'agir, le pouvoir d'agir. On parle d'empowerment dans cette littérature des citoyens lorsqu'ils appartiennent aux catégories les plus démunies par définition de capacité d'agir. Et par exemple, l'un des éléments de réflexion qui domine dans la recherche sur la démocratie participative, c'est essayer de voir si, pour les gens qui appartiennent aux catégories populaires, pour lesquels il est très coûteux de s'engager politiquement, pour différentes raisons, si finalement l'accueil des émotions, de l'indignation, de la colère, à travers des dispositifs appropriés, peut conduire à une démarche de renforcement de la confiance et des capacités d'agir. Alors, de ce point de vue-là, effectivement, ce ne sont pas n'importe quelles questions qui sont posées par la recherche, ce sont des questions qui sont en lien avec un idéal démocratique et un idéal plutôt égalitariste.
Ça pose quand même des questions et parfois des conflits avec l'objectif de connaissance, au fond, des sciences sociales. Parce que, certes, il y a cet empowerment dont vous parlez, mais on peut réfléchir avec un autre objet s'agissant des émotions. En lisant le livre, je me disais, au fond, qu'en est-il, par exemple, de ce qu'on appelle dans les médias le sentiment d'insécurité ? Quel est le rôle du chercheur face à quelque chose comme ça ? Est-ce que le rôle du chercheur qui travaille sur les questions de sécurité est d'établir des statistiques solides sur la réalité de l'insécurité en tant que fait social ou de se préoccuper du ressenti des citoyens face à la réalité de ce fait social? On sait bien que ce ressenti occupe dans l'espace public une place de plus en plus importante, que les médias y prêtent attention. Et donc, est-ce que les émotions ne viennent pas remplacer, au fond, la connaissance qui, elle, est produite par ces sciences sociales?
Il faut faire les deux choses. Il faut faire les deux choses. Il faut établir la réalité du phénomène d'insécurité, mais dans cette réalité du phénomène d'insécurité, il y a aussi le sentiment d'insécurité. Et il faut analyser la manière dont ces émotions morales, hein, d'un certain point de vue, dont ces sentiments peuvent entraîner des comportements de la part d'individus, alors peuvent conduire à certains types d'engagement, à certains types d'expression. Mais là, je pense que c'est à la charge finalement des chercheurs en sciences sociales. Ce qu'on a découvert quand même depuis quelques années, et quelque part les neurosciences n'y sont pas pour rien. C'est-à-dire que en fait, ce sentiment d'anxiété, hein, c'est ce que dit mon collègue américain George Marcus dans son livre sur le citoyen sentimental. Cette perception d'un écart entre la réalité que l'on attend et la réalité que l'on expérimente. Hein. Alors, ce phénomène un peu subjectif entraîne des formes de raisonnement, des formes de rationalité, des formes d'attention nouvelles aux politiques qui peuvent aller dans un sens positif lorsque un choc moral produit une indignation qui va faire en sorte que l'on s'engage, mais qui peut produire aussi beaucoup de frustration, de ressentiment, mais qui sont des phénomènes de nature éminemment politique. Et en fait, c'est ça. Le fait que les émotions soient sous-jacentes à peu près tous les comportements politiques qui aujourd'hui intéressent les sciences sociales. C'est-à-dire qu'on les retrouve partout, hein, dans tous les comportements, dans toutes les mobilisations, dans toutes les formes d'engagement. Et je pense que cette omniprésence et cette centralité des émotions est très importante.
Alors, il y a un point qu'on n'a pas encore fait, Loïc Blondiot, c'est celui du rapport à la psychologie. Vous citez les neurosciences. Là, ce sont des travaux de sciences sociales qui se construisent en grande partie en opposition à une forme, non pas à la psychologie, mais à une forme de psychologisation qui est celle qu'on retrouve beaucoup dans les lectures de la politique telles qu'elles sont proposées par le journalisme politique, par exemple, où beaucoup de choses sont psychologisées à travers les responsables politiques dont on fait des héros, ou qu'ils soient bons ou mauvais. Cette lecture psychologisante qui accorde une très grande place aux émotions, c'est pas du tout l'approche que vous cherchez à avoir des émotions en politique. Ça, c'est peut-être important de le préciser.
Oui, il faut avoir un usage raisonné, limité de ces neurosciences. C'est-à-dire, il faut toujours se rappeler qu'il n'y a pas de déterminisme des émotions. C'est-à-dire que, en fait, les émotions s'expriment, se forment dans des contextes sociaux très particuliers, et qu'effectivement, une même réaction physiologique chez des individus qui appartiennent à des contextes sociaux, à des environnements sociaux différents, ne produira pas du tout les mêmes effets. Donc, il faut résolument, et effectivement, je fais partie de ces sociologues qui se positionnent contre ce déterminisme des émotions et qui essayent de comprendre l'articulation entre les phénomènes psychologiques et les phénomènes sociologiques. Les émotions sont un composite de physiologie, de neurologie, de psychologie et de sociologie. Et il est absolument impensable de se contenter d'une seule de ces dimensions.
D'ailleurs, au fond, c'est quoi les émotions? Est-ce qu'on peut en faire une liste? Beaucoup s'y sont essayés, c'est très compliqué de faire la liste de toutes les émotions possibles, mais au fond, ça nous renvoie à des tas de sentiments extraordinairement différents, dont vous disiez tout à l'heure d'ailleurs qu'ils peuvent se manifester ou être complètement intériorisés, gardés pour soi, auquel cas ça pose un problème pour le chercheur qui n'est pas un psychologue. Comment on va sonder le fort intérieur des citoyens, quand bien même ceux-là sont au cœur d'une manifestation, par exemple? Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion, dans ces divers travaux qui sont présents dans le livre, d'explorer au fond une gamme assez large d'émotions?
Non, c'était vraiment pas le projet. On n'est pas des entomologistes des émotions, vous avez raison. La réflexion sur les émotions, c'est souvent noyé dans cette volonté d'inventorier. Bon, et effectivement, ça n'est pas du tout notre objet. Moi, il y a une définition des émotions que j'aime et qui effectivement va bien avec ce dont nous parlons dans le livre, c'est le sens ancien du mot émotion. Hein. Le terme même d'émotion renvoie au terme de mouvement. Et sous l'Ancien Régime, par exemple, on parlait des émotions populaires, c'est-à-dire des mouvements de l'opinion, des humeurs. On parlait aussi des humeurs. Et effectivement, il y a de ça aussi. Nous, ce qui nous intéresse dans les émotions, c'est d'essayer de comprendre dans quelle mesure ces émotions se transforment en actions. C'est-à-dire, produisent, sont à l'origine d'actions. Et ce qui nous intéresse aussi, ce sont les médiations qui permettent cette transformation de l'émotion en en action. Parce que derrière un certain nombre des dispositifs dont nous parlons, il y a des acteurs, il y a des intermédiaires, qui sont des gens qui vont à la fois susciter, produire ces émotions par ce qu'on appelle des dispositifs de sensibilisation. Pensons aux mobilisations pour la cause animale. Mon collègue avec qui on a co-dirigé ce livre, Christophe Traini, a beaucoup travaillé sur ces dispositifs qui visent à susciter des émotions, mais ensuite on essaie de les traduire, de les interpréter, de les articuler à, aussi à des formes d'expertise. Parce que l'émotion nue, l'émotion seule, n'a pas de portée politique directe. Et une fois qu'elle s'articule sur de l'expertise, qu'elle s'articule aussi sur de l'idéologie, il faut politiser ces émotions pour qu'elles aient un impact. Et on voit bien comment finalement le trait commun aux mobilisations, à la sociologie des mobilisations, aux mouvements sociaux, mais aussi aux démarches de participation qui relèvent aussi de la gouvernementalité, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des autorités politiques qui essayent de former des sujets et de produire des émotions. Leur point commun, c'est justement d'essayer de politiser ces états de conscience qui, sans ce travail intense de politisation, reste parfaitement sans conséquences, parfaitement éphémère.
Au fond, vous vous situez sur un terrain un peu à mi-chemin entre la politique traditionnelle, celle des institutions, cette démocratie représentative, et puis la politique des mouvements sociaux, des mobilisations. Ce sont d'ailleurs deux traditions de recherche relativement différentes à l'intérieur de la sociologie politique. Et puis il y en a une troisième qui surgit un peu au milieu des deux, qui s'intéresse, et c'est ce que vous faites depuis longtemps maintenant, à ce qu'on appelle la participation politique, c'est-à-dire des mobilisations, mais des mobilisations qui sont souvent voulues, provoquées par des acteurs un peu institutionnel, plus ou moins. C'est-à-dire qu'on a des choses qui sont très encadrées, qui viennent de l'État, et puis il y en a d'autres qui sont plus locales, mais qui sont également du haut vers le bas, en quelque sorte.
Voilà, l'un des points de départ de ce travail collectif, hein, parce que dans ce volume, il y a des chercheurs qui travaillent sur ce qu'on appelle la démocratie participative, au sens où vous l'avez décrite, c'est-à-dire des dispositifs institutionnalisés, mis en place par des autorités pour associer les citoyens au processus de décision, et puis des chercheurs qui travaillent plutôt sur des mobilisations, sur des phénomènes qui viennent plutôt du bas, avec des formes d'organisation collective, de coordination d'activités, mais qui sont le fait d'organisations issues de la société civile. Et le point de départ, c'est de dire que c'est, en fait, on assiste à la même chose. En fait, les deux phénomènes relèvent de formes de mobilisation. Ce que cherchent à faire les autorités lorsqu'elles mettent en place des conseils de quartier, des budgets participatifs, c'est à former des sujets, c'est à faire advenir certains type de comportement et faire en sorte de renforcer le plus souvent leur légitimité ou leur pouvoir. Et ce qu'elles cherchent à faire les mouvements sociaux en essayant de mobiliser, c'est aussi à créer un rapport de force avec les autorités et donc analytiquement, on peut les analyser de la même manière. Et dans ce livre, il y a à la fois, par exemple, un article sur les indignés en Espagne, d'Héloïse Ney, qui essaie de rendre compte de la manière dont ces mouvements ont beaucoup reposé sur un partage des émotions, c'est-à-dire sur une capacité à accueillir des témoignages individuels susceptibles de produire des émotions chez un auditoire, d'autres participants. Mais on travaille aussi, par exemple, sur un dispositif aussi institutionnel que le jury d'assises, qui est un dispositif là où les émotions sont complètement formatées et qui est, on ne peut plus, institutionnel. Alors, qui est à la marge de ce que l'on pourrait appeler la démocratie participative, mais dans lequel finalement, il y a aussi des citoyens ordinaires dont finalement les comportements sont cadrés par des dispositifs. Et puis un autre dispositif beaucoup plus courant, qui est le dispositif de l'enquête publique. Lorsqu'on demande à des citoyens de se prononcer sur, par exemple, des éoliennes, il y a aussi tout un travail de formatage des opinions qui nous a intéressés.
Alors, l'une des questions que vous posez, c'est la première partie du livre, et le chapitre sur les indignés en Espagne en fait partie, c'est celle de la configuration du périmètre des citoyens actifs. Est-ce que là, il n'y a pas une forme de risque dans une division du travail entre, d'un côté, je dirais, les citoyens les plus intéressés par la politique, qui auraient droit de citer dans la démocratie représentative classique, avec des arguments rationnels où la raison jouerait un rôle, et puis d'un autre côté, une démocratie pour les citoyens de second rang, qui sont moins intéressés par la politique et que pour intéresser à la politique, il faut accepter d'en passer par le rire, les larmes, les pleurs, un autre rapport moins rationnel aux politiques. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque au fond normatif assez grand, Loïc Blondiaux ?
Oui, tout à fait. Là, vraiment, c'est un fil rouge.
Je caricature, mais...
Oui, il y a un peu de ça. On pourrait instaurer une troisième catégorie, les gouvernants, qui, eux, sont supposés ne pas avoir d'émotions, sont capables de maîtriser leurs émotions, présentent toujours leur position comme exempte de toute forme d'émotion. Mais c'est vrai que chez les citoyens eux-mêmes, il y a des postures, il y a des positions différentes entre ceux qui ont la capacité de produire ces formes de discours rationnels qui sont attendus dans un certain nombre de circonstances, qui sont capables de produire de l'expertise, hein, sous forme de contre-expertise. Et puis, ces citoyens ordinaires, finalement, que l'on cantonne à des réactions ou à l'expression de leurs affects, au risque, finalement, d'une certaine forme de dépolitisation. Il y a beaucoup de dispositifs participatifs aujourd'hui qui, au travers du jeu, on parle de démocratie post-it, hein, au travers des post-it, incitent les citoyens à produire des idées, à exprimer leurs affects, mais tout en les dépossédant en quelque sorte de la possibilité de produire un discours articulé, cohérent, qui serait de nature politique et qui serait capable finalement de faire une forme de pendant au discours des experts ou au discours des gouvernants. Et effectivement, cette forme d'instrumentalisation de la participation citoyenne, elle est problématique. Mais tout le charme, finalement, de cette matière-là, c'est son ambiguïté. C'est que on a montré, par ailleurs, que quelquefois, l'appel aux émotions chez les citoyens pouvait produire des phénomènes de responsabilisation, des phénomènes de subjectivation, pour reprendre une expression de Rancière, qui est décisive dans la politisation des citoyens. Donc, les émotions, c'est une forme d'arme à double tranchant, à double tranchant.
On est entre l'empowerment, dont vous parliez tout à l'heure, et puis la récupération de la critique dans des formes artistes amateurs.
Voilà. Mais il y a aussi un élément qu'on oublie aussi. C'est la capacité aussi des citoyens ordinaires à jouer de leurs émotions. Il y a par exemple un article d'une collègue qui travaille sur la participation des indigènes au Chili. Il n'y a pas plus dominé que les indigènes mapuchés au Chili. Or, le gouvernement chilien a mis en place un grand dispositif de participation, de consultation des indigènes. Et en fait, ce que montre très bien cet article, c'est comment les représentants indigènes à cette table ronde participative sont capables tout à la fois de jouer sur le registre de l'expertise, c'est-à-dire le registre du droit, mais aussi sur le registre stratégique de l'émotion, c'est-à-dire qu'ils sont capables de subvertir ce dispositif en simulant l'indignation. Nul ne sait s'ils simulent, s'ils jouent stratégiquement ou s'ils ressentent cette émotion. Et puis, à la limite, peu importe pour nous sociologues qui observons ces dispositifs, mais comment finalement ils peuvent retourner un certain nombre d'émotions qui insistent sur la colère, l'indignation du peuple indigène vis-à-vis des autorités chiliennes, et que ça marche. Ça peut marcher aussi, hein, cette instrumentalisation des émotions par les citoyens eux-mêmes contre les autorités.
Surtout, peut-être à certains moments historiques où l'on voit des formes de critique de la professionnalisation politique surgir, de ce que certains peuvent appeler du populisme. Il y a débat, on le sait, sur le mot, mais en tous les cas, des formes de court-circuitage, au fond, de la démocratie représentative classique qui appellent aux groupes sociaux, aux populations, peut-être davantage dans un registre de l'émotion que le discours politique ordinaire.
Alors, il faut faire très attention, hein, quand on fait cette opposition, c'est-à-dire que opposer le cercle de la raison, qui serait le cercle des partis et des mouvements classiques de la démocratie représentative, au mouvement des passions, qui serait le fait de ceux qui contestent, c'est une vision absolument, me semble-t-il, caricaturale. Mais il est très clair que ce que l'on appelle les mouvements populistes essayent de réhabiliter un certain nombre d'émotions morales, l'indignation étant cette... On vit, pour reprendre le titre d'un livre récent d'un collègue espagnol, on vit le temps de l'indignation, c'est-à-dire que l'indignation est une émotion légitime. Hein. Ce qui est perçu, à tort ou à raison, on le verra peut-être avec Mathieu Larnaudy, comme une technocratie froide, comme un monstre froid, comme des dispositifs de pouvoir qui s'imposent au nom de la rationalité, mais sans la moindre possibilité de se laisser prendre aux émotions.
Des émotions, il y en a beaucoup et variées sur ce premier album très très impressionnant d'une rappeuse du Bronx, Cardi B. L'album s'appelle Invasion of Privacy et ce titre, Bodak Yellow.
Can fuck with me if you wanted to. These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. Hit the school, I can get them both, I don't wanna choose. And I'm quick, cut a nigga off, so don't get comfortable. Look, I don't dance now, I make money move. Say I don't gotta dance, I make money move. If I see you now and speak, that means I don't fuck with you. I'm a boss, you a worker, bitch, I make bloody moves. Now she say she gon' do what or who? Let's find out and see. Cardi B, you know where I'm at, you know where I be. You in the club, just to party, I'm there, I get paid a fee. I be in and out them banks so much, I know they tired of me. Honestly, don't give a fuck about who in front of me. Drop 2 mixtapes in 6 months, what bitch working as hard as me? I don't bother with these hoes, don't let these hoes bother me. They see pictures, they say ghosts, bitch I'm who they tryna be. Look,
la suite dans les idées, Sylvain Bourmont.
La démocratie des émotions, c'est le titre du livre collectif sous la direction de Christophe Traini et Loïc Blondieu. Loïc Blondieu qui est notre invité aujourd'hui à la suite dans les idées. La démocratie des émotions, c'est aussi ce qu'on a pu voir sur un certain nombre de places publiques, de grandes villes à travers le monde, de régimes qui n'étaient pas vraiment des régimes démocratiques, mais qui aspiraient à le devenir et où ces places ont été les lieux de manifestations démocratiques importantes. Le livre des places, c'est un autre livre collectif, cette fois d'écrivains plutôt, qui reviennent sur ces mouvements. Mathieu Larnaudy, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'éditeur de ce livre qui paraît aux éditions Inculte et vous êtes aussi l'un des auteurs. Vous avez travaillé sur l'un de ces lieux. Et puis, je voulais signaler, parce que c'est une actualité éditoriale concomitante et qu'il concerne aussi la politique, que vous êtes l'auteur des Jeunes Gens, Les Jeunes Gens, ce récit littéraire sur la promotion Macron à l'ENA. Où,
la promotion Senghor, il n'a pas encore donné quand même.
Voilà, mais je reprends le bandeau du livre qui permet de comprendre immédiatement de quoi il s'agit. Et bandeau sur lequel figure d'ailleurs une photo où on voit une émotion partagée par un groupe de jeunes femmes et de jeunes hommes de cette promotion. Ils sourient tous.
Oui, bon, ils sont manifestement assez contents d'être là et d'avoir intégré cette belle école. C'était assez amusant pour moi de travailler de façon concomitante et simultanée sur ces deux projets, l'un collectif et l'autre donc plus personnel, ce qui me faisait faire une espèce de grand écart politique. En réalité, entre d'un côté le personnel, les gouvernants, et puis de l'autre côté les mouvements insurrectionnels. Alors, dans l'approche, il y a quand même quelques similitudes, à savoir que j'ai abordé ces deux réalités en tant qu'écrivain. Donc, le livre des places est avant tout une approche sensible de ce qui s'est passé sur les différentes places du monde. D'ailleurs, on dit, ça a été dit tout à l'heure un petit peu vite, que c'est un mouvement des places. Bon, ça reste un petit peu sujet à caution, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de réduire la réalité historique de chacune des places à ce qui s'est passé dans un mouvement d'ensemble, même s'il y a un tissu.
Il y a des échos.
Il y a des échos, des résonances, des signifiants qui circulent, des slogans, certains effets visuels aussi qu'on retrouve à certains endroits. Il y a également cette espèce de vocabulaire architectural minimal qui fait un petit peu le principe même de l'installation, celui des tentes, des cuisines de fortune où on fait la soupe, enfin voilà. Donc il y a effectivement des choses qui se ressemblent, mais il ne s'agit pas de dire que ce qui s'est passé à Tahrir ou à Taksim est exactement la même chose que ce qui s'est passé sur République ou à New York. Donc c'est quand même une précaution qu'il faut préciser parce que cette précaution-là a aussi induit une manière d'aborder les places dans leur singularité, dans leur topographie. C'est quelque chose à quoi on a veillé vraiment partir du terrain pour en déployer les significations plutôt que de venir abattre une grille de lecture politique préconçue.
Mais des allers-retours, les sociologues sont habitués à ça, c'est entre les logiques de l'enquête de terrain et en même temps l'envie quand même de trouver des récurrences, de trouver des motifs qu'on peut voir d'une place à l'autre. Vous en savez quelque chose, Loïc Blondieu? Je crois qu'on vous a vu place de la République, à la fois observateur de ce qui s'y passait et en même temps venant faire des cours sur la démocratie participative.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. Il y a un piège aussi pour l'observateur, c'est-à-dire que tout ne se joue pas dans le destin de ces mouvements, tout ne se joue pas sur la place. Mais c'est valable pour beaucoup d'expériences démocratiques, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que en étant là, en observant, en étant immergé dans cette foule, on peut saisir comme Fabrice, non mais à l'inverse de Fabrice Adel Dongo, il y a effectivement, on voit rien. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se joue en dehors. Moi, je me suis aussi rendu compte que la manière dont ces mouvements étaient construits de l'extérieur par les observateurs, ce qui en était finalement perçu, jouait aussi un rôle sur le mouvement lui-même. Alors, il y a un très très beau film qui malheureusement n'a pas connu le destin public qu'il méritait, qui s'appelle L'Assemblée, qui montre très bien que finalement, quand on reste sur la place, c'est très difficile de comprendre ce qui s'y joue, et je serais très heureux de lire ce mouvement, parce que je sens chez Mathieu Larnaudy, une sorte de vocation de sociologue, de spécialiste de sciences sociales. Son livre sur les jeunes gens, c'est-à-dire sur la promotion Senghor, c'est une analyse de sciences sociales. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes allé les interroger de manière longitudinale. On fait des études longitudinales, c'est-à-dire à plusieurs reprises dans le temps. Et ça, c'est très, très important. Et puis, vous avez essayé aussi de restituer les cadres de leur action, le contexte de leur action. Ce que vous dites, par exemple, sur la manière dont ces énarques, quelques années après leur sortie de l'école, se retrouvent à proximité physique les uns des autres, tous au bord de la Seine, en fait, qu'ils soient dans des banques, qu'ils soient à Bercy, qu'ils soient dans les établissements culturels, ils sont très très proches. Ça, c'est typiquement des analyses qui sont très proches de ce que nous, on essaie de produire en sociologie.
Il faut dire, Mathieu Larnaudy, que ça fait longtemps que vous observez le politique, vous l'avez fait de diverses manières, dans des romans, vous avez travaillé sur la place des émotions aussi, sur le langage, sur le discours politique.
Oui, tout à fait. Mon travail de romancier m'avait déjà amené à m'interroger sur les figures du politique, sur leur langage, sur leur discours, sur la façon dont ils prennent la parole. Et c'est aussi ce que j'ai essayé de faire, évidemment, en rencontrant ces fameux jeunes gens, à savoir une trentaine de personnes ayant appartenu à la promotion Senghor. Effectivement, il y a cette espèce de géographie du pouvoir, en fait, que j'ai essayé, de façon parfois un petit peu ironique d'ailleurs, de mettre en relief avec le fait que, de toute façon, on sait que la France étant un pays éminemment centralisé, à peu près toutes les décisions sont prises sur quelques dizaines de kilomètres carrés, et ce sont précisément les kilomètres carrés que j'arpentais, moi, pour aller à mes rendez-vous, tout bêtement. Mais finalement, cette figure géographique-là, on la retrouve aussi, par exemple, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, lorsqu'on regarde où sont situés les quelques députés qu'a donné la promotion Senghor. C'est la manifestation matérielle et physique du consensus républicain. C'est une espèce de manière de rabattre sur le territoire ce consensus-là. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que disait Loïc Blondiot tout à l'heure, c'est de mettre en rapport une certaine idée du consensus républicain qui est celui que produit l'ENA, qui est vraiment la scène de parole que fabrique l'École nationale d'administration.
La fabrique du consensus.
Exactement. Avec ces autres formes de consensus qui sont recherchées, malgré tout, par la démocratie participative. Et c'est peut-être ce qu'on pourrait appeler le paradoxe démocratique de la démocratie participative. C'est que, au fond, on fabrique un certain nombre de dispositifs qui sont là pour faire entrer des prises de parole qui, d'ailleurs, entre parenthèses, sont parfois peu maîtrisées. Autant les énarques sont vraiment des experts de la parole publique, autant c'est vrai que ce à quoi on assiste sur les places, par exemple, lorsque les gens prennent la parole, c'est souvent de façon beaucoup moins construite. On voit que ce sont pas des gens qui sont habilités d'avance à la prendre. Vous avez parlé tout à l'heure de la formation du sujet démocratique que ces dispositifs induisaient et proposaient. Mais ça pose un vrai problème, puisque ça peut être aussi, cette formation, une manière de ne pas laisser la subjectivation dont vous parliez tout à l'heure, de ne pas laisser le sujet politique se constituer et advenir autrement. C'est-à-dire que c'est une fabrique d'un consensus participatif qui prive la possibilité, pour revenir à Rancière, justement, que vous citiez tout à l'heure, d'un dissensus. Et l'irruption du politique, la vraie irruption du politique, elle se fait dans les dissensus. Et pour moi, tout l'intérêt de travailler de façon simultanée sur ces deux sujets, c'était de voir comment, d'un côté, on avait le consensus républicain, c'est-à-dire la gouvernance politique en acte, et de l'autre côté, ces mouvements insurrectionnels qui, eux, se font dans le dissensus, c'est-à-dire qui rompent avec l'ordre habituel des choses, y compris dans leur manifestation la plus physique, puisque une occupation, c'est bien ça, c'est la rupture de la vocation d'un lieu.
Loïc Blondiot.
Oui, le sous-titre du livre « La démocratie des émotions », c'est « Dispositif participatif et gouvernabilité des affects ». C'est-à-dire qu'on se met vraiment là, pour le coup, sous l'égide de Foucault. C'est-à-dire qu'on peut aussi les penser comme instrument de gouvernement, de gouvernabilité. En même temps, ça marche pas aussi bien que ça. C'est ça qui est relativement rassurant. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas présumer du design du dispositif l'effet qu'il produira sur les citoyens. C'est-à-dire que très paradoxalement, quelquefois, il produit un effet contraire. C'est-à-dire que les gens se rendent compte qu'ils sont instrumentalisés et produisent du dissensus. Il y a effectivement une forme
de
retour de bâton qui peut être assez violent. Et c'est pour ça que moi, je continue effectivement à m'y intéresser. C'est pour voir comment finalement cette mécanique du pouvoir n'est pas aussi puissante qu'elle n'y paraît. Mais moi, ce que j'ai dans votre livre sur les jeunes gens, ce que j'ai trouvé absolument fascinant et qui vient confirmer ce que dit la sociologie politique, c'est l'interchangeabilité de ces acteurs. C'est-à-dire la facilité avec laquelle ils circulent dans les espaces de pouvoir, des entreprises privées, des banques, des établissements publics, espaces parlementaires, dessinant finalement un espace qui leur est ouvert et qu'ils revendiquent comme le leur. Ce que vous montrez, c'est que l'ENA leur apprend à se repérer dans cet espace, à se déplacer dans cet espace, leur donne des clés, y compris à ceux qui ne viennent pas de la nomenclatura, mais en tout cas de la haute noblesse de la fonction publique. Et ça, c'est assez fascinant. C'est-à-dire ce que vous décrivez des phénomènes de pouvoir aujourd'hui, de la porosité des frontières entre les pouvoirs privés et les pouvoirs publics, et dans une certaine mesure entre ce qu'on appelait autrefois les partis de gouvernement, c'est-à-dire le centre droit et le centre gauche. C'est-à-dire que un même individu peut servir finalement des gouvernants appartement et ça c'est fascinant. Et ce que vous décrivez aussi c'est l'existence aujourd'hui de ce que moi j'ai tendance à appeler une épistocratie, c'est-à-dire une expertocratie. Ce sont des gens finalement qui gouvernent au nom d'un savoir prétendument supérieur et c'est ce qui fait le ressort de leur légitimité. Je sais pas ce que vous en pensez.
Absolument, c'est tout à fait vrai et la manifestation la plus patente en est on les retrouve d'abord, lorsqu'il s'agit de s'engager en politique, dans les grands cabinets ministériels, dans des lieux où c'est leur expertise qui prévaut, et non sur le terrain, lorsqu'il s'agirait par exemple de briguer un suffrage populaire dans une circonscription, où évidemment l'ancrage dans une réalité populaire est tout aussi importante que le langage expert. Donc c'est vrai que...
À quelques exceptions. Oui, dans cette promotion, on trouve Boris Vallaud, par exemple, qui s'est présenté, a été élu, l'un des rares socialistes élus aux dernières élections législatives.
Non, mais il y en a quand même qui ont recours au suffrage populaire. Il ne s'agit pas de dire ça. Il y en a qui reviennent quand même peut-être à une façon aussi un petit peu plus traditionnelle de considérer la politique. Maintenant, c'est vrai que moi, ce qui m'a quand même époustouflé, c'est de se rendre compte qu'en 2013, sous François Hollande, il y avait une vingtaine de sangors autour de la table lorsqu'il y avait une réunion des directeurs de cabinet et sous-directeurs de cabinet en parallèle au Conseil des ministres. C'est quand même un chiffre assez invraisemblable. Et ça dit nécessairement quelque chose sur la façon dont ils perçoivent le pouvoir et tout simplement aussi là où se trouvent les réels leviers de pouvoir en France.
Je voudrais revenir, Mathieu Larnaudy et Loïc Blondiot, à la question des émotions. Parce qu'au fond, quand on regarde cette promotion de l'ENA, mais au-delà de cette promotion, quand on regarde les énarques, les hauts fonctionnaires, même plus généralement, on se dit qu'il n'y a probablement pas de gens qui sont plus, en apparence, dépourvus d'émotions. C'est-à-dire que, au fond, être un bon haut fonctionnaire, c'est être capable de toujours masquer ces émotions. Je ne suis pas en train de dire que ces gens n'ont pas d'émotions. Je suis en train de dire qu'ils se vivent comme de grands serviteurs de l'État dès lors qu'ils sont capables de ne pas faire apparaître leurs émotions. Bien plus qu'un responsable politique, puisqu'un responsable politique va, de temps en temps, jouer sur des registres émotionnels.
C'est vrai. Mais c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que là, je pense qu'il y a vraiment, et la respectabilité qu'on a vue advenir vis-à-vis des métiers de la communication politique implique cet état de fait, il y a une espèce d'intériorisation de l'idée quand même que la politique se fait par des émotions et qu'un énarque, c'est pas que un technocrate gris. Je dirais même que dans cette idée de consensus républicain dont on parlait tout à l'heure, il y a maintenant une part faite aux émotions et on retrouve même ce consensus dans l'appréhension des émotions elles-mêmes. On parlait tout à l'heure, Loïc Blondiot parlait tout à l'heure des émotions prescrites et proscrites. Bon, ben, typiquement, on le voit ça dans ce qui fait le consensus républicain auquel les énarques répondent. Il y a, par exemple, des émotions qui sont tout à fait prescrites et admises lorsqu'il s'agit, par exemple, de l'unanimité émotionnelle en réaction à un attentat, par exemple. Et on va mettre en scène ces émotions. Et puis, il y en a d'autres qui sont absolument prescrites, qui sortent de ce consensus-là dont on parle depuis tout à l'heure. Certaines formes de colère, par exemple, que celles qui amènent à déchirer une chemise, par exemple, ou à occuper une université. Alors là, par contre, ça ne rentre plus dans le cercle des émotions admises.
Mais ça, c'est intéressant, le poids de la communication politique. Bon, c'est pas un énarque, mais c'est vrai qu'on l'a vu aussi dans certaines fonctions judiciaires. Je pense à François Molins, par exemple, nouvelle figure de la justice. La justice, autrefois, était sans émotion. Et là, on a des incarnations, et forcément, ça passe aussi par des émotions, Loïc Blondiot.
Oui, c'est surtout la capacité à s'ajuster à la situation. C'est ce contrôle des émotions. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Mathieu Larnaudy. C'est-à-dire qu'il y a des émotions qui sont attendues à un certain moment, et rien de pire que celui qui ne paraît pas ressentir d'émotions au moment où il était censé en avoir. Et il y a des émotions, oui, il y a des émotions qui sont extrêmement codifiées, comme celles qui suivent un attentat ou un crime, je suis tout à fait d'accord. Alors je reviens à la démocratie des émotions. On a un exemple, par exemple, d'audition publique en Inde, où ceux qui sont les organisateurs de ces auditions et qui appartiennent vraiment aux catégories de pouvoir, aux catégories supérieures, sont passés maîtres dans l'art de moduler leurs émotions et donc apparaître comme affecté par des témoignages de citoyens, et ça c'est une force incroyable. Mais ce que nous décrit aussi Mathieu Larnaudy, c'est quelque chose qui n'est pas très différent de la société de cour de Saint-Simon, c'est-à-dire que là on voit bien comment cet apprentissage du contrôle des émotions était une donnée absolument de survie même, si on voulait réussir, hein. Je pense à Baldassare Graciane et ses manuels de l'homme de cour. Là on a affaire à des hommes de cour, mais la force de son livre, c'est qu'il va suffisamment loin dans les entretiens qu'il mène avec chacun d'entre eux pour voir que derrière ça, il y a quand même des gens qui se ressemblent pas forcément et qui ont pas forcément ni la même idéologie ni les mêmes valeurs au fond d'eux-mêmes.
Oui, mais ce qui rend d'ailleurs ces effets de langage un petit peu uniformisants encore plus sidérants, parce que on voit à quel point effectivement en partant d'individus dont il faut le dire la vie, la réalité sociale ne sont pas forcément réductibles les uns aux autres, on arrive quand même à des façons de parler, à des façons de naviguer à l'intérieur du pouvoir, comme vous le disiez tout à l'heure, non pas uniformes, mais en tout cas qui appartiennent à une espèce de corpus bien donné qui fait vraiment leur ancrage.
Les émotions, encore un objet politique à explorer, parce que ça fait quelques années que ça a commencé ce travail, mais ça reste relativement mystérieux à explorer, à la fois par la sociologie politique, mais aussi probablement par la littérature. Mathieu Larnaudy, des romans à venir sur ces objets politiques?
Oh, c'est un sillon que j'espère bien creuser. Effectivement, moi ça m'intéresse beaucoup, et je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, effectivement, dans la représentation littéraire, à la fois du personnel politique, mais du politique.
Alors déjà, deux livres sortis à lire, Les jeunes gens, la promotion Saint-Gore, promotion Macron, c'est aux éditions Grasset, et puis ce livre dont vous êtes l'éditeur aux éditions Inculte, le livre des places qui regroupe des textes d'écrivains sur ces places qui ont été investies depuis maintenant assez longtemps à la faveur de mouvements politiques divers et variés. Et puis La démocratie des émotions, c'est le livre dirigé par Christophe Traigny et Loïc Blondiot qui paraît aux presses de Sciences Po. On trouve toutes ces références bibliographiques sur la page de la suite dans les idées, sur le site de France Culture, une page où vous pouvez bien sûr réécouter cette émission en streaming, et également une page sur laquelle vous pouvez vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmont, attaché de production, Catherine Donnet à la technique, Claire Levasseur à la réalisation, Anne-Laure Chanel. Dans quelques instants, c'est Christine Bernard que vous retrouvez sur l'antenne de France Culture pour une histoire particulière.